André Limbouchima au Kassai Oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour près de 57 minutes d'échange et de partage. Nous faisons le point avec vous sur l'action de la police dans votre milieu, dans différents domaines d'intervention lui dévolus par la loi. Des démolitions au déguerpissement en passant par différents mandats ainsi que la gestion des manifestations publiques. L'article 15 de la loi numéro 11/013 du 11 août portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise indique que les missions ordinaires de la police ont pour but de prévenir des troubles à l'ordre public et les infractions, de constater celles-ci, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher et d'en identifier les auteurs et les déférer devant l'autorité judiciaire compétente. Ces missions s'opèrent quotidiennement sans qu'il soit besoin d'une réquisition de l'autorité. Que pensez-vous de l'exécution des mandats et autres décisions de justice par la police dans votre milieu? Nous en parlons avec le colonel Célestin Kanyama, commissaire de la police nationale congolaise du district de la Lukunga, ici à Kinshasa. J.R. Lungembo, Titimputu, Djedone Nyangiasa sont à la réalisation de cette émission supervisée par Ben Kabamba et Pierrot Elamey. Je vous la présente, fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamey.
081-890-43-39, 081-890-43-39, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission qui fait le point sur l'exécution des différents mandats, des décisions judiciaires par la police dans votre milieu. Nous en parlons bien sûr avec l'exemple de ce qui est arrivé à Kisangani en province orientale, c'était le lundi dernier, où la police a lancé des gaz lacrymogènes dans l'enceinte d'une école où, selon les témoins, s'est vu un conflit parcellaire entre les propriétaires, les promoteurs de cette école et les détenteurs. Et ce conflit qui a fait à ce que 3 élèves ont été grièvement blessés et plus de 24 autres légèrement blessés, bien sûr, après que la police ait lancé ces gaz lacrymogènes. Et il y a eu cette bousculade et la panique au sein de l'école. Et cela nous permet de faire le point avec vous et tout l'ensemble de nos auditeurs sur la radio Capi, sur l'analyse de l'exécution des mandats par la police et autres différentes décisions de la justice selon que cela est dévolu par la loi. Comme je le disais, nous allons faire le point avec le colonel Célestin Kanyama, qui est commissaire de la police nationale congolaise dans le district de Lukunga, ici à Kinshasa. Mais en attendant que nous puissions avoir notre invité en ligne, nous avons Simon Siloulou qui nous appelle de Matadi et dans la province de Bakongo, et Chico qui est à Kalemi. Vos préoccupations, vos contributions, les points de vue et aussi les questions à poser, vous pouvez le faire au 081-890-43-39. Simon, vous êtes avec nous sur les antennes, bonjour.
Bonjour, donc c'est Simon Siloulou, le secrétaire provincial du syndicat des enseignants et coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile. Félicitations d'abord pour le thème, parce que vous savez que la police sont ceux-là que l'État congolais paye pour nous protéger, nous les civils, et nos biens. Donc il va de soi qu'on en parle aujourd'hui. En fait, la police comme telle, d'abord ici dans la province de Bas-Congo, vous savez que chez moi, par exemple, dans les Manianga, dans un territoire et dans un secteur d'autant de personnes, parfois il n'y a que 5 policiers pour tout un secteur. Et ces 5 policiers... Ils qui n'ont une arme pour un policier. Parfois, vous voyez les paires, au lieu des bottes, ils ont des paires de caches déjà détruits. Je sais que dans la police, il y a des éléments bien formés sur le plan de l'administration. En tout cas, la police, je crois, peut défier toute structure de la République démocratique du Congo. Là, ils sont très promptes. Mais le problème se pose au niveau de la qualité des personnes, au niveau de la qualité des soldats que nous avons. Vous imaginez, très souvent, parfois on recrute les gens, les agents de l'ordre parmi les agents de désordre. Ceux qui vont, l'exténuation qui s'ensuit, ils deviennent eux-mêmes parfois les agents de désordre. Nous les voyons parfois parmi les bandits, les policiers parfois s'y trouvent. Pété, il faut savoir aussi pour notre pays par exemple, on paye à quelqu'un qui fait la garde des biens et des personnes un montant, un salaire ou un solde là de moins de 30 000, 40 000 francs. Et en dépit de ça, vous prenez une arme, vous prenez des balles, vous lui remettez au-dessus des salaires. Moi, je me demande, cela voulait dire quoi? Lorsque vous payez quelqu'un, vous lui donnez 21 000 francs,
voilà. Et au-dessus Simon, de 21 000, Simon,
vous lui donnez une arme et des balles.
Oui, Simon, si on peut se comprendre, pour revenir à notre problématique, vous avez élevé d'abord deux questions importantes. La première question, c'est par rapport à l'insuffisance des aimants de la police. Vous avez parlé des manyangas dans le Bas-Congo. Vous pensez que le travail est bien fait, l'administration est bien fait, mais il y a un problème d'insuffisance des éléments dans le milieu où vous êtes, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas résoudre tous les problèmes de maintien de l'ordre qui se présente. Voilà. Mais il y a aussi le problème de la formation. Il faudrait qu'il y ait des éléments de qualité pour qu'ils parviennent à accomplir leur mission. Et vous avez évoqué aussi l'amélioration des conditions de vie des policiers par rapport en termes des salaires. Merci beaucoup. Notre invité est déjà en ligne. On va commencer avec lui ensemble tout cela. Mais nous revenons ici dans ce studio pour aller à Calémie où se trouve Chico. Vous êtes avec nous. Bonjour Chico.
Bonjour Pierrot et la maison.
Voilà, nous faisons le point ensemble sur l'accomplissement de missions de la police, que ce soit les mandats, que ce soit lors des déguerpissements, l'encadrement des manifestations au public, mais aussi les différentes interventions quand il s'agit par exemple des démolitions dans votre milieu. On fait le point et on commence avec notre invité. Quel est votre point de vue et votre préoccupation, Chico?
Oui, Pierrot Lamézi, j'ai des préoccupations, j'ai des questions que je dois poser à notre invité.
Oui, allez-y.
Le colonel Kanyama, et puis j'ai des préoccupations.
Allez-y.
Je suis dans mon milieu, c'est très grave. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a recruté d'abord la police. La plupart des policiers qu'on a ici proviennent de l'intérieur de la province du Katanga, par exemple de Kitanda, Ankoro, ainsi de suite. Ils maltraitent la population ici. Tellement terrible. J'ai d'abord, je vous donne un exemple, monsieur Pierrot Lamézi. La police vient avec une convocation, cette convocation dénommée M. Antoine Pilipili, par exemple. Ça, c'est un exemple. Mais le mot Antoine, je rappelle comment est-ce que l'OPJ a écrit le mot Antoine. A-T-W-A-N. Le monsieur dit que moi, je ne parle pas, mon nom ne s'écrit pas comme ça. Monsieur le policier, allez, il écrit convenablement son nom et demandez à la police, il écrit convenablement son nom. Maintenant, les policiers n'ont pas accepté. Donc, l'OPJ d'abord, qui ne sait pas écrire le mot Antoine, est-ce que c'est l'OPJ compétent ou incompétent? Maintenant, ma première préoccupation sur le sujet, je voulais poser au colonel Kanyama, comment est-ce qu'on recrute? Est-ce qu'un OPJ, c'est quelqu'un qui doit passer à l'école, oui ou non d'abord?
Et la deuxième question?
J'aimerais d'abord savoir, la première question, c'est de savoir, un OPJ d'abord, l'homme qu'on appelle OPJ, il doit passer à l'école, oui ou non? Bien, on va recruter comme ça à l'intérieur, dans un village qui devient OPJ, puisque tel officier à Kinshasa, c'est mon père. Ça, c'est ma première question. Deuxième préoccupation, c'est celui-ci, monsieur le journaliste. Un homme d'affaires de la place a été avant-hier, on a volé pillé par des policiers ou des militaires, je ne sais pas, mais la police en face de lui, on a pris de 28 millions de francs congolais. Mais on ne peut pas accepter qu'il y a, en face de lui, il y a des policiers, mais cet homme d'affaires, calciné, pillé toute sa maison sans intervention. Mais je ne sais pas quelles sont les polices qu'on a chez nous ici.
Voilà. Ok. Oui, Chico, vous posez deux problèmes. Premièrement, vous voulez demander à notre invité comment on procède pour recruter les OPJ. Faudrait-il que quelqu'un soit passé sur le banc de l'école pour qu'il devienne OPJ parce qu'il se pose un problème de l'écriture. Quand on veut arrêter quelqu'un, il dit c'est pas moi parce qu'on a mal écrit son nom. Et vous dites qu'il y a un cas pratique, c'est l'immobilisme, hein, un pillage qui s'est opéré en face du bureau de la police et qu'il n'y a pas eu d'intervention. Ça, c'est un cas pratique pour Ekalemi. Merci beaucoup. Nous allons, avant d'écouter notre docteur Richard qui est ici à Kinshasa, on va accorder la parole à notre invité pour d'abord une introduction par rapport aux considérations générales hein, sur les missions de la police et revenir maintenant aux cas pratiques qui se posent, qui peuvent être reportés par les auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Colonel Célestin Kanyama, vous êtes avec nous sur les antennes. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Nous faisons le point sur l'intervention de la police sur terrain, que ce soit en cas de mandat d'amener, des guerpissements, des démolitions, mais aussi l'encadrement des manifestations et la gestion des foules. Mais il y a aussi ces préoccupations des auditeurs par rapport sur terrain. Mais avant de venir, bien sûr, à ce qui a été posé comme problème par les auditeurs, revenons dans les considérations générales. Comment la police parvient-elle à intervenir, par exemple, sur terrain, que ce soit pour la démolition, que ce soit pour les déguerpissements, que ce soit pour un mandat? Bonjour. Quelles sont les différentes procédures qui font à ce que la police arrive sur terrain pour intervenir?
Oui, bonjour, merci messieurs les journalistes pour la parole et l'attention que vous accordez aux activités de la police.
Mm-hmm.
Ça prouve que c'est un service public qui a l'intérêt capital pour concernant sa mission. C'est une bonne chose, nous disons merci.
Merci.
Je crois ici nous parlons de la science, c'est parfois une occasion d'éclairer certains points où nos compatriotes ont, ont besoin d'être édifiés sur la question. Je crois que pour commencer, moi je commencerai par la question de tout à l'heure, par comment on recrute les OPJ. Je crois que nos OPJ sont recrutés en tenant compte d'un certain nombre de critères, et ils passent par un examen, et ils sont admis dans notre école de formation d'officiers judiciaires,
mm-hmm.
et c'est après cette formation-là qu'ils sont admis dans les installations de la police pour prester comme OPJ, bien sûr, après prestation de serment.
Mm-hmm.
C'est comme ça que ça se passe. Il a posé la question sur l'immobilisme de la police de ces messieurs-là en face où il était victime.
Oui.
Bon. Parfois qu'on n'a pas donné dans quelles conditions, dans quelles conditions le monsieur a été visité. Dis-moi, si quelqu'un vient entre dans une parcelle clôturée et que on n'a pas alerté la police, ils peuvent être à deux ou à trois, ils entrent sans alerter la police et que facilement, il peut être un enfant de la maison et il a soutiré quelque chose de ses parents ou de ses frères sans que la police soit informée. Je crois que, ne fût-ce que sur ce point-là, on ne peut pas condamner la police.
Mm-hmm.
La police, c'est votre police, elle est votre police. Il faut porter l'information à la police,
mm-hmm.
pour que cette police puisse prendre des dispositions de vous sécuriser. Il n'y a aucun service, aucune police à travers le monde qui peut travailler sans information. Quand vous avez l'information que vous mettez à la disposition de la police intervient.
Mmh.
Et aujourd'hui, je vous confirme que cette police, de la manière qu'elle est en train d'évoluer, et je suis d'abord conscient et convaincu, puisque le monsieur a dit tout à l'heure qu'il est très satisfait par le service de la police. C'est déjà suffisant. Bon, au terme de notre sujet de tout à l'heure, déguerpissement, manifestation de foule,
démolition,
je commencerai d'abord par les déguerpissements.
Mmh.
Les missions de la police sont des missions constitutionnelles. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, c'est conformément à la loi.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que la loi dit en ce qui concerne les déguerpissements? Nous avons deux situations. La première situation, c'est quand il s'agit, par exemple, la loi réglemente l'urbanisme, l'habitat, l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, la loi donne des règles à suivre pour la construction, pour urbaniser une ville,
mm-hmm.
que les gens de bonne volonté doivent observer et respecter, pour refléter l'image d'une bonne ville et d'une ville urbanisée. Et quand vous respectez la procédure, vous bénéficierez de ce qu'on appelle l'autorisation de bâtir.
Mm-hmm.
Là, vous avez l'autorisation de bâtir et vous pouvez construire, faire votre ouvrage.
Mm-hmm.
Ça, c'est le premier cas.
Oui.
Le deuxième cas, quand vous ne respectez pas ces principes-là de l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire, et vous construisez sans avoir bénéficié de l'autorisation de bâtir, l'autorité
mm-hmm.
peut décider une démolition conformément à la loi. On décide la démolition conformément à la loi. Bien sûr, la première des choses qu'on vous adresse, c'est suspension des travaux. C'est mm-hmm. le premier document qu'on vous adresse. Vous devrez suspendre les travaux. Et quand vous n'observez pas ça, le deuxième acte qui sera posé, c'est la démolition.
Mm-hmm.
La démolition conformément à la procédure. Ça, c'est dans le premier cas. Dans le deuxième cas, c'est quand vous construisez sur un terrain d'autrui. Quand vous construisez sur un terrain d'autrui, on vous adresse aussi la suspension des travaux. Vous devrez observer. Si vous êtes de bonne foi, on peut vous restituer la valeur de l'ouvrage.
Oui.
Conformément à la procédure, on vous restitue la valeur de l'ouvrage. Mais quand on remarque que vous êtes de mauvaise foi, on peut ordonner aussi la démolition sans vous restituer la valeur de l'ouvrage. Et quand vous avez construit le terrain d'autrui, tout ça c'est conformément à la loi. Et la police a pour mission de porter main forte à la justice.
Oui.
Nous savons que les jugements sont rendus au nom du, peuple congolais et exécutés au nom du chef de l'État.
Oui.
Et personne ne peut contester ça. Les jugements, on les rend au nom du peuple congolais et exécutés au nom du chef de l'État. C'est-à-dire, nul n'est au-dessus de la loi.
Oui.
Il faudrait que tout le monde s'exécute.
Mm-hmm.
Voilà l'intervention de la police à ce niveau-là.
Oui.
J'ai parlé de deux cas. J'ai parlé en ce qui concerne l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire, où les gens doivent se conformer à la loi en bénéficiant d'autorisation de bâtir. Ça, c'est le premier document où vous devrez avoir avant de construire. Et si vous n'avez pas observé ça, on peut amener à vous déguerpir par la démolition. Et au deuxième cas, j'ai parlé quand vous construisez...
Sur le terrain qui appartient à quelqu'un d'autre.
Un terrain d'autrui.
Voilà.
Et que vous êtes de mauvaise foi, on ne peut pas vous restituer la valeur.
La valeur, oui.
Et on passe à la démolition.
Mmh.
Tout ça, c'est réglementé par la loi. Et la main, la police a pour mission de porter la main forte à la justice.
Okay.
Et nous savons tous, les jugements sont rendus au nom du peuple congolais et exécutés au nom du chef de l'État.
Voilà.
Et nous sommes au-dessus de la loi.
Oui.
Il faudrait que tout le monde s'incline.
Mais il y a aussi ces cas, bon, on peut dire que les cas de démolition sont liés aux cas de déguerpissement. C'est presque, ça peut marcher de pair.
Mais je crois que je suis en train de balancer les deux au même moment.
Voilà.
Quand vous êtes sur un terrain d'autrui, comme les cas que nous ne vous avons pas dit, et vous comprendrez que quand vous construisez ailleurs, et que vous savez ce qui est encore très fort, c'est quand vous êtes un intellectuel, un intellectuel censé connaître et maîtriser la loi, et qui ces intellectuels et qui se permettent de construire sur les terrains d'autrui. Là, je trouve que c'est de mauvaises fois. On peut ou ne pas vous restituer la valeur.
Voilà. Et par rapport au mandat, parce qu'on voit des fois, quand est-ce que la police peut descendre dans un quartier, muni de mandat, faudrait-il arrêter la personne? Est-ce qu'il faut les lier? Quelles sont les circonstances? Voilà. Est-ce qu'il faut les brutaliser? Il faut les torturer? Quelles sont les circonstances qui sont aussi, qui concernent l'exécution de mandats sur terrain?
D'abord, en termes de mandat d'amener. Mandat d'amener, c'est un acte de procédure émis par l'autorité judiciaire, c'est-à-dire les magistrats du parquet, ou un OPJ qui exécute les mandats du procureur. Je crois que tu me comprends un peu comment je dis.
Oui, c'est bien compris.
Mandat d'amener,
oui.
C'est un acte de procédure émis par l'autorité judiciaire, c'est-à-dire les magistrats du parquet, ou un OPJ exécute les mandats du procureur.
Voilà.
Ça, c'est en ce qui concerne le mandat d'amener.
Quand
est-ce qu'on arrive au niveau des mandats d'amener? D'abord, on commence, quand vous avez des informations, nous avons besoin d'avoir des éclaircissements, des informations sur une situation, on vous adresse une invitation. C'est-à-dire, les procureurs vous adressent une invitation, les magistrats du parquet vous adressent une invitation, vous demandez de vous présenter, puisque là, c'est une situation, un éclaircissement que vous devez fournir à la justice. Et pour l'OPJ, nous appelons ça convocation. Il vous envoie une convocation et vous venez répondre. À ce qui concerne, quand il y a des infractions concernant la situation, il y a des infractions mises par X ou Y, on vous adresse les mandats de comparution au niveau du parquet.
Oui.
L'OPJ, on vous adresse une convocation. Vous venez répondre, vous justifiez sur le fait infractionnel pour reprocher.
Oui.
Et quand vous refusez de comparaître, il y a des gens de mauvaise foi, on vous adresse des invitations de convocation, on vous envoie des mandats de comparution, vous ne répondez pas. À la fin, on vous adresse ce que nous appelons mandat d'amener. Mandat d'amener. Dans ce cas-là, on vous contraint de vous acheminer devant l'autorité judiciaire pour répondre aux greffes.
Oui, mais maintenant, c'est par rapport à l'attitude que la police doit avoir quand elle vient exécuter les mandats d'amener. En principe, quelle est la procédure? Si la personne s'exécute, si la personne résiste, quelle doit être l'attitude de la police quand elle vient exécuter un mandat d'amener?
Vous savez, d'abord, la police est fondée sur les principes de respect des droits de l'homme. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'exécute, on les traite avec toute la dignité de voulu. On les respecte avec la dignité, on les traite avec respect, avec considération. Et que dans tous les cas de figure, je crois que la police doit se comporter comme un service respectueux des droits de l'homme. Tout simplement.
Voilà. Oui, colonel Célestin Kanyama, nous avons deux auditeurs en ligne, mais il y a la situation de la gestion des foules. On va revenir là-dessus. Le temps d'écouter les deux auditeurs qui sont là, on va les écouter et revenir à vous, parce qu'il y a aussi, quand est-ce que la police intervient en ce qui concerne la gestion des foules, on va revenir là-dessus. Mais le temps d'écouter le docteur Richard qui est ici à Kinshasa et maître Mashaka qui est à Lubumbashi. Docteur Richard, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici à Kinshasa. Voilà, vous êtes avec nous ici.
Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, vous êtes ici avec nous ici à Kinshasa. Nous faisons le point sur les interventions de la police dans votre milieu, que ce soit, vous avez suivi en introduction avec notre invité, que ce soit pour un mandat d'amener, que ce soit pour la démolition, le déguerpissement, mais la gestion des foules, on n'a pas encore évoqué l'introduction avec lui. Quel est votre point de vue et votre préoccupation?
Oui, je félicite le colonel. Il a donné une belle introduction. C'est à nous maintenant de cogiter au départ des faits pour dégager peut-être la conduite de demain. Alors, il a parlé de la loi. Je suis renversé de dire que la loi ici chez nous, c'est lettre morte. Pourquoi je dis ça? La mandature passée par rapport à l'Assemblée passée a produit plus de 400 lois. Je pose la question au professeur qui avait dirigé cette assemblée, combien de lois sont vulgarisées? Je crois rien. Pourquoi? Parce que l'honorable Boulet, le général à la retraite, une fois il est passé sur Radio Capi, il a dit qu'il était chez lui, au bas Zuélé, je crois, il a trouvé que la constitution n'est même pas là. Donc, la loi, elle est là, elle est lettre morte. C'est pour les tiroirs et pour les intellectuels, peut-être pour les hommes politiques. Il n'y a pas une culture de vulgarisation de la loi, même par les députés quand ils sont en vacances parlementaires. Donc, la population est surprise par rapport à ses propres lois. Donc ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, par rapport au comportement de nos vaillants policiers, je crois quelque part ils sont restés dans le type de gestion léopoldien. Vous savez que Léopold II, lorsque vous faites moins d'une tonne, peut-être vous avez manqué 100 kilos pour faire la tonne de l'EVA, il coupait la main des Congolais. C'est-à-dire il y avait la brutalité et on imprimait dans le mental de la population la peur et... Bah, je ne veux pas revenir sur des événements que nous déplorons avec la disparition et les morts des gens et que la police a fait commises parce qu'on en parle. Alors, donc, le deux faits là montrent que notre police doit aujourd'hui se revêtir de ce qu'on dit la nouvelle citoyenneté. J'étais, étonné quand je suis arrivé pour la première fois au Kenya. Un policier, en ouvrant la porte d'une des salles de l'aéroport, il me saluait, comme disent les Congolais, « Kati saluti ». Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, c'est le visage renfrogné, le ton attaquant, et vous êtes là, détruit dans votre morale, et nous fouillons nos policiers. Nous les fouillons, nous les craignons comme le diable. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'exécution de certaines missions, par exemple, j'étais très très heureux de voir qu'on a enlevé dans certaines rues, moi j'appelle ça les cases de vente de produits. Ça salit la ville. Mais il faut partir, comme on dit, avec un processus pédagogique. Les gens ne comprennent pas. Le peuple est sclérosé par de mauvaises habitudes. Il croit que pour n'avoir laissé sa banane, Il doit faire une case dans la rue et commencer à vendre du pain. Mais maintenant, vous imaginez un peu 52 ans de dépendance, on ne lui a jamais dit que c'est mauvais. Bon, vous venez avec les bâtons, matraques, tout ce que vous voulez, vous dites que c'est mauvais. Mais vous ne comprendez pas. Commencez par un encadrement pédagogique.
Une sensibilisation.
En passant par le chef de quartier, le chef de quartier va sensibiliser le chef de rue, le chef de rue fera ce qu'on appelle la communication de proximité, et puis vous donnez un délai. Après le délai, on peut venir maintenant démanteler, parce qu'on a déjà parlé pendant un mois, deux mois, je ne sais pas comment.
Mais oui, mais docteur Richard, même si c'est docteur Richard, ce peut se comprendre.
De bonheur pour le peuple.
Voilà, à qui revient la responsabilité de cette éducation d'abord, cette procédure, ces processus de sensibilisation et d'éducation, à qui revient? Est-ce que c'est à la police ou bien à qui,
parlé,
par exemple?
J'ai parlé des chefs de cité, des chefs de quartier, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est ce ministère qui gère le peuple au quotidien pour sa sécurité et la sécurité de ses biens, à travers la police. Mais la police n'est qu'un bras, bras pour dissuader quand le chef de cité a échoué, quand le chef de quartier a échoué, quand le bourgmestre a échoué.
Merci, docteur Richard. Merci, docteur Richard. Excusez-nous de vous interrompre parce qu'on a beaucoup de gens sur le standard. Le sujet est très, très intéressant pour les auditeurs. Ils sont nombreux à vouloir intervenir et contribuer à cet échange comme maître Mashaka qui est à Lubumbashi. Merci beaucoup, docteur Richard. Vous étiez ici à Kinshasa avec nous. Maître Mashaka, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Et vous avez suivi l'intervention aussi de Dr Richard qui dit qu'il y a un problème. D'abord, il faut sensibiliser. Parce que notre invité a parlé de la loi. Il faut d'abord, il y a une insuffisance dans la sensibilisation. Les gens ne maîtrisent pas assez des lois pour savoir comment c'est comporté. Mais il y a aussi ces problèmes de l'évolution dans la mentalité, de la confiance entre la police et la population pour que les gens ne puissent pas craindre les policiers comme il l'a dit. Votre point de vue et votre préoccupation, maître Mashaka.
Merci, M. Perrot, de m'avoir accordé la parole. J'ai bien suivi le colonel dans son intervention. Il a bien défini la mission de la police selon la loi congolaise. Mais ce qui se passe sur le terrain, M. Perrot, ce n'est pas ce que M. le colonel vient d'expliquer là-bas. Vous savez, il y a une chose que je trouve drôle dans notre police. Puisque aujourd'hui, je ne sais pas si les changements d'unité dans l'armée, ça s'est fait directement comme ça, puisque aujourd'hui on se retrouve dans la police avec les gens, quelqu'un qui était JR demain, aujourd'hui vous le trouvez, il est policier. Quelqu'un qui était un combattant hier, aujourd'hui il est policier. Il n'a aucune notion de la police. Or la police a des notions élémentaires et des notions de base concernant la police. Et l'armée aussi à leurs instructions là-bas à l'armée, puisque un militaire reste toujours militaire, il ne peut pas cohabiter avec les civils. Maintenant, aujourd'hui, les gens changent les unités comme ils font. Et c'est ce qui favorise beaucoup les habits au sein de notre police, M. Pierrot. Il y a une situation qui se passe ici chez nous à Lubumbashi, il y a une unité de la police. Ça, je voulais aussi poser la question à notre invité qui est M. le colonel.
Oui.
Puisque l'unité qu'on appelle les bureaux D, ce sont les policiers qui ne portent pas la tenue de la police. Je ne sais pas si M. le colonel peut nous expliquer la mission et la compétence de cette unité-là. Puisque aujourd'hui, cette unité, M. Pierrot, on les trouve partout. Ils arrêtent les véhicules, ils se comportent en PCR. Il se comporte n'importe quel monsieur de l'ANR, on ne sait pas leur rôle principal dans leur unité là de la police, M. Pierrot.
Voilà.
Aujourd'hui, M. le colonel a bien déterminé la mission de la police. Mais aujourd'hui, la police, les OPJ, ils rendent justice ici. Selon le règlement, on sait que dans un bureau de la police, on ne peut pas retenir quelqu'un pendant plus de 48 heures. Mais aujourd'hui, vous allez trouver quelqu'un.
Voilà, on a des petits soucis. On a eu des petits soucis avec la ligne de Maître Mashaka, mais il a posé la question d'abord. Il dit la première problématique, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens, il y a des confusions. Quelqu'un qui était par exemple dans l'armée militaire, demain il décide d'entrer dans la police, lui il pense que cela pose un problème de cohabitation, de discipline, hein, de comportement pour un militaire et un policier, mais il pose la question de savoir la mission du bureau des les compétences, parce qu'il dit à Lubumbashi partout ailleurs, on les trouve presque partout, ils accomplissent toutes les missions. Quelles sont les missions qui leur sont dévolues spécifiquement, mais aussi l'inquiétude par rapport aux OPG qui rendent des justices et ceux qui détiennent les gens au-delà des 48 heures. Merci Maître Mashaka de Lubumbashi. On revient ici à Kinshasa. Confiance, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je suis content que le colonel ait parlé des missions dévolues à la police. Mais je pense que le sujet dont nous devrions parler aujourd'hui tourne autour de la manière dont on l'exécute.
Voilà.
Il y a une grande problématique, il y a un grand problème qui fait que les policiers que nous avons nous ont toujours considérés comme leurs ennemis. Quand on dit déjà que les policiers d'abord eux-mêmes se considèrent comme de militaires. Donc il y a une nette différence, il n'y a pas de différence entre un combattant et un policier. Donc un policier c'est un agent de l'ordre public, on ne refuse pas, mais il y a des fois dans l'exécution de leur mandat, ils n'ont pas, les policiers que nous avons généralement ne connaissent pas les droits humains. Moi je pense qu'il faudrait aller dans faire un recyclage dans ce sens-là. Parce que en exécutant les tâches, vous allez voir que même quand il fallait déguerpir les gens qui vendent sur la rue, le même policier qui chasse les autres va laisser les autres parce qu'il a dû toucher 100 francs, 200 francs, 300 francs. Mais il est beaucoup plus violent envers celui qui ne lui a pas donné cet argent-là. Même dans le cas où il y a des exécutions, il y a cette destruction méchante-là, cette colère-là, cette animosité-là envers le civil. C'est ce qui fait mal. Moi, je pense que c'est aussi une difficulté parce que la plupart des gens que l'on recrute, ce sont des gens qui peut-être ont échoué ailleurs. Je dis bien dans la plupart, je ne dis pas que tout le monde, mais dans la plupart des cas, ce sont des gens qui n'ont pas été excellents ailleurs et qu'on vient déverser dans la police comme un bouche-trou. C'est ça le mal chez nous. Parce que généralement, quelqu'un qui a suivi la formation, quelqu'un qui considère le civil comme son frère, comme son ami, quelqu'un qui a dans sa tête la protection du civil, ne peut pas agir de la sorte. Ils n'ont pas le sens de la conscientisation, ils n'ont pas le sens des protections, mais ils ont le sens de la destruction méchante. C'est un peu ça, une grande partie. J'ai vu un véhicule de police devant une banque parce que le policier suivait un véhicule. Il a mal interprété le chauffeur qui a failli causer un accident. Il y a une dupe de la police qui est venue, ils ont commencé à le bastonner et il y a juste une femme qui a dit « Non, Bongoté, ce n'est pas comme ça ». On a suivi cette femme-là à la banque sur Laurent Pongaba, c'était devant Finca. On l'a suivi et toutes les femmes qui étaient là, qui attendaient l'argent, se sont dispersées. Ils ont pris le parasolet de la banque, sans que même l'agent de sécurité qui était là. Ils ont pris ce parasolet-là, ils sont partis avec une jeep de la police en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'ils sont partis comme ça. Il y a cette impunité-là qui fait que quand ils sont en tenue, ils peuvent tout faire et ils se sentent intouchables. Donc c'est ça au moins la difficulté.
Merci. Confiance. Vous pensez qu'il y a ces problèmes de confiance entre la police et la population? Comment les missions doivent-ils être exécutées? Il faut tout cela, mais bon, aussi ces problèmes de croire que les gens qui ont échoué ailleurs pensent qu'il faut aller maintenant passer le temps où se déverser dans la police. Le temps que Mav, qui est à Kananga, puisse garder la ligne, hein, nous allons revenir à notre invité pour commenter les points de vue des auditeurs, mais n'oublions pas qu'il y a aussi cette mission par rapport à l'encadrement de foule, comment cela s'est fait. Il pourra répondre, mais après avoir commenté les préoccupations de ces deuxième groupe d'auditeurs.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Colonel Célestin Kanyama, vous êtes avec nous sur les antennes.
Oui, je savais.
Vous avez suivi les compatriotes qui sont intervenus. Je sais qu'il y a beaucoup de préoccupations par rapport à la considération générale de la police, mais nous allons revenir beaucoup plus à ce que nous avons retenu dans cette émission par rapport à l'exécution des missions sur terrain pour ne pas qu'on ne puisse pas se perdre dans beaucoup de choses à la fois. Mais quand même, par rapport à cela, il y a des amis qui ont évoqué, comme Dr Richard, le problème de la vulgarisation des textes, parce que vous avez évoqué les textes, mais beaucoup de gens ignorent vraiment les textes, ils ne savent pas ce que la police doit faire. Mais il y a aussi ces problèmes de l'évolution dans les comportements, dans la considération des relations entre les policiers et les civils. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Confiance de Kinshasa, qu'il faudrait que les policiers ne considèrent pas les civils comme les ennemis. Il y a ces problèmes. Il y a aussi ces problèmes de la considération par rapport aux unités des gens qui sont partis, par exemple, de l'armée qui sont entrés dans la police. Quel est le travail qui doit être fait pour qu'ils comprennent comment se comporter comme policier plutôt que militaire, mais aussi le travail de bureau de... Ça, c'est une question posée par le maître Machaka de Lubumbashi.
Oui, merci pour les interventions de tout à l'heure. Ça prouve également qu'il y a une attention particulière à la prestation de la police, qui est à la définition légale. La police nationale congolaise est un service public civil, accessible et à l'écoute de la population. Je crois que là, nous répondons, c'est une définition constitutionnelle. C'est-à-dire, il faudrait que, comme l'a dit l'ami, que la loi soit vulgarisée, la vulgarisation de la loi, pour que les gens, tout le monde, comprennent que nous ayons même entendement et même compréhension de la chose. Il y a une question concernant les gens qui opèrent en tenue civile, communément appelé les bureaux 2.
Oui.
Je crois que on ne va pas parler de la méthodologie de la police en ce qui concerne notre travail sur le terrain, mais ce qui peut être retenu à l'intention de tout le monde. Nous utilisons un langage accessible à tout le monde, c'est dire que ce sont des éléments qui opèrent, qui sont confondus dans la population pour récolter des informations et renseignements de nature à permettre à la police de bien travailler et d'empêcher les troubles à l'ordre public. Tout ce qui n'est pas correct peuvent nous être informés par les gens qui sont en tenue civile, qui se confondent dans la population. Mais ce ne sont pas en réalité eux qui posent les actes sur le terrain. Et ils nous amènent des informations, des renseignements sur la chose, et que les hommes apparents, identifiables sur le terrain, qui doivent opérer. Je crois que d'une manière un peu facile à être compris, c'est comme ça que je suis en train de donner cette petite définition-là. Concernant les policiers, hier ils étaient dans l'armée et aujourd'hui ils sont dans la police. D'une manière générale, je crois presque tous les intervenants sont tous unanimes que la police, d'une manière générale, le travail se déroule très bien. Et on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y a des brebis galaises qu'on peut retrouver parmi les gens. C'est une société, c'est une famille où on peut trouver les gens qui ne se conforment pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit les applaudir. Généralement, on les traite avec la rigueur pour qu'ils se soumettent et qu'ils puissent se conformer dans la ligne de conduite de la police, qui est une ligne légale et constitutionnelle. On ne peut pas encourager ceux qui ne se conforment pas. Dans l'exécution de nos missions, je crois qu'il y a une certaine responsabilité dans la population. Il y a les amis qui ont cité des cas par-ci, par-là, qui nécessitent également l'implication de la population. Il faudrait que la population se soumette. Vous savez, quand on vous parle, par exemple, qu'il y a l'ordre public. L'ordre public règne dans les pays quand le peuple respecte les lois et la réglementation. Quand le peuple respecte les lois et la réglementation, je vois dans quelles circonstances la police peut passer outre. Non. Tout ça, c'est à un certain niveau, les gens ne veulent pas s'exécuter. Nous avons tendance à croire que nous sommes dans... Non. Je ne veux pas parler de l'histoire, mais je veux parler de ce que nous vivons. Que les gens comprennent que les périodes ne se ressemblent plus. Et que il y a une certaine évolution dans les comportements pour que nous aussi, les peuples,
que nous puissions fournir un effort de changer les comportements, la mentalité.
Mm-hmm.
Tout ça en respectant la loi et la réglementation en ce qui concerne l'évolution, le développement de notre pays.
Voilà,
voilà d'une manière ramassée, c'est mmh. elle,
voilà.
que les gens comprennent qu'on doit vivre de cette façon-là.
Voilà. Avant d'écouter Mave qui est à Kananga Ernest, revenons maintenant à la troisième préoccupation que nous avions à l'introduction. Nous avons parlé des démolitions, des guerpissements, vous avez expliqué sur le mandat. Revenons aussi en bref en ce qui concerne la gestion des foules, parce que c'est là que nous allons peut-être évoquer l'exemple de ce qui est arrivé en début de semaine à Kisangani, où la police a pu jeter les gaz lacrymogènes dans l'enceinte d'une école, où il y a même des enfants de l'école maternelle de tous les âges confondus. Alors, quand est-ce que la police descend sur terrain dans la gestion de manifestations et comment procède-t-elle, par exemple, quand il s'agit de foules? Considère-t-elle l'âge des personnes? Considère-t-elle les rangs de ces personnes? Comment, à ce niveau, la police intervient-elle avant qu'on puisse écouter à l'autre série des auditeurs?
Oui, merci beaucoup. Je crois que nous utiliserons nous essaierons de donner une définition assez simple pour que nos compatriotes comprennent. Mm-hmm. C'est de cette façon-là qu'on peut vulgariser et la loi, certaines réglementations pour que nous ayons tous le même entendement.
Mm-hmm.
En ce qui concerne les manifestations des foules, la constitution de notre pays réglemente tout ça, en respectant les droits et libertés des citoyens,
mmh.
et leurs limites. Je suis en train de respecter, d'insister sur les limites. Il faudrait que nos compatriotes comprennent et que les manifestations de foule sont réglementées par la Constitution, qui est une loi fondamentale de notre pays, qui respecte, qui consacre les droits et libertés des citoyens, et leurs limites. Et leur limite. Manifestation publique, en respectant les droits des autres, c'est défini par la Constitution. Il faut toujours informer l'autorité pour prendre des mesures sécuritaires.
Mm-hmm.
Quand tu as des manifestations publiques, nous sommes dans un régime d'information. C'est-à-dire, il faut toujours informer l'autorité politico-administrative
mm-hmm.
pour prendre avec ses services des mesures sécuritaires. Pour éviter les débordements. Pourquoi on les forme? On les forme pour que cette dernière prenne toutes les dispositions voulues pour que qu'il n'y ait pas les débordements pour sécuriser les manifestants et les non-manifestants. Puisque quand les gens qui manifestent,
mmh.
il y a les uns manifestent et les autres ne manifestent pas. Il faudrait sécuriser les deux camps. Il ne faudrait pas que ceux qui manifestent empêchent les autres de mener leur vie quotidienne. Non. Non.
C'est
en ces termes-là qu'on doit informer l'autorité politico-administrative
pour
prendre des dispositions nécessaires.
Et toujours
dans
oui.
cette même loi, mm-hmm. je précise, ils doivent examiner avec l'autorité politico-administrative la faisabilité de la sécurisation. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement, je donne un exemple. Vous voulez organiser une manifestation au stade Tata Raphaël, par exemple.
Mm-hmm.
Et le même jour, il y a une manifestation, il y a un match de foot. Quand vous informez l'autorité invite les organisateurs pour les tenir informés que voilà, nous accordons, nous autorisons votre manifestation, mais il se fait que l'endroit ou les lieux ou les jours ne permet pas à ce que vous manifestez. Voilà les raisons. Voilà, je suis en train de définir pourquoi on informe l'autorité.
Mmh.
C'est pour prendre toutes les dispositions nécessaires. Éviter les troubles et la désolation. Les manifestants doivent être encadrés. Les manifestants doivent être encadrés. Je crois que j'ai donné une définition
oui.
courte
voilà.
et avec des mots pour mmh. permettre à notre population de bien comprendre la
mais
définition.
Mais alors, on voit plusieurs fois des manifestations qui commencent des fois bien quelque part, ça va tourner au vinaigre, il y a des gaz lacrymogènes. Et pour revenir au cas plus pratique qui s'est déroulé à Kisangani, quand est-ce que la police peut recourir à ces moyens-là pour d'abord disperser et pour jeter par exemple les gaz lacrymogènes dans l'enceinte d'une école, parce que c'est ce qui est arrivé, et quelle est la responsabilité au niveau de la police en cas de ce genre de comportement pour ceux qui peuvent avoir être en fait les policiers qui ont été à la base des troubles de l'ordre. Les élèves sortent peut-être de l'école, on leur a demandé de sortir. Mine de rien, ça tombe de nulle part, quelqu'un lance la bombe lacrymogène et tout le monde commence à courir dans tout le sens à ce niveau-là. Comment la police intervient-elle et quelle est la responsabilité au niveau de la police par rapport à ce genre d'actes sur terrain?
Je crois la définition, c'est telle que nous l'avons définie au départ. Je vous avais dit que les missions de la police sont des missions constitutionnelles. Sont des missions qui sont inscrites dans la Constitution. Mmh. C'est dans la loi que la police retrouve ses missions traditionnelles. Quand il y a une manifestation et qu'on arrive à lancer des grenades lacrymogènes, on doit avoir au préalable respecté la procédure et respecter les étapes. C'est-à-dire, on a tenté, on a conseillé, on a pris contact par l'autorité politique administrative, on a fait des sommations, on a parlé tout ça. Et en fin de compte, comme la force reste à la loi, on doit pas faire par tous les moyens pour rétablir l'ordre. Dans les cas d'exception, c'est dans les cas d'exception, pour rétablir l'ordre, on peut utiliser les grenades lacrymogènes. Nous n'utilisons pas les armes à feu, nous utilisons les grenades qui ne tuent pas. Et c'est de cette façon-là qu'il y a des étapes bien sûr qu'on doit observer avant d'arriver à ce niveau. Si, d'une manière inopinée, d'une manière inattendue, et qu'il y a un policier par excès de zèle, et qui le fait, je crois que on se réfère toujours à la loi et à la discipline du corps pour que chacun réponde.
Voilà. Nous allons écouter Mave qui est à Kananga, Ernest qui est à Matadi pour poursuivre avec cette dernière partie de cette émission consacrée bien sûr au travail de la police dans le volet concernant l'exécution de mandats et autres décisions sur terrain dans votre milieu. Depuis le début de cette émission, nous avons eu plusieurs témoignages, plusieurs propositions aussi et préoccupations. Nous les commentons avec le colonel Célestin Kanyama qui est commissaire de la police nationale congolaise dans le district de la Lukunga ici à Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Mave, vous êtes avec nous de Kananga au Kassai Occidental. Bonjour. Mave, bonjour. On a perdu Mave sur la ligne de Kananga. Nous allons à Matadi. Ernest, vous êtes avec nous. Bonjour, Ernest. Ernest, bonjour.
Bonjour.
Oui, voilà. Ici, il y a moyen de pouvoir arrêter votre poste récepteur pour éviter cet écho-là sur les antennes. Cela va vous permettre de suivre l'émission directement à travers votre téléphone portable. On vous écoute, Ernest.
Oui, merci. Nous pensons qu'il est important d'avoir les services de sécurité dont la police nationale congolaise, modernisée, adaptée à la réalité de la République démocratique du Congo. Mais nous remarquons, comme les amis l'ont dit, la police nationale congolaise a un sous-bassement des anciens militaires des armées aïroises. Et à côté de ces gens, nous avons recrues qui étaient venus des civils, qui sont devenus à la police, de la population de la vie civile, et qui se retrouvent là-bas avec objectif, avec une arme, ils peuvent détraquer et déranger les pays des citoyens. Mais à ce comportement, la population civile développe aussi un autre comportement de méfiance envers la police. Imaginez que nous quittons Matadi pour Kinshasa, on entre à Kinshasa à 2h du matin et la police qui nous interpelle, au lieu de nous demander, vous venez de nous demander les pièces d'identité pour savoir si nous sommes réellement des citoyens congolais, des bons citoyens, malheureusement ils se préoccupent pour nous dépouiller de tout ce qu'on avait. Et les paris comportements, on ne peut plus avoir confiance à cette structure. Avec la donne, la nouvelle donne sur la police de proximité, on rapproche un peu cette police au niveau de Matadi, la commune d'Entanda et en expérimentation de cette force. On cherche à récupérer la confiance entre la population et la police. Mais les idéaux, cette confiance ne doit pas être des noms ou sur le papier. Ça doit être vécu parce que les policiers ont des femmes, les enfants sont dans les écoles publiques, ils sont avec la population, ils travaillent ensemble. Il faut des mécanismes de compénétration des rapports entre les civils et la police. Sinon, on va vivre cette méfiance et la police n'aura pas besoin, n'aura pas les informations en cas de besoin de la part de la population. C'est pourquoi nous pensons qu'il est intéressant, avec l'expérience de la police de proximité, d'élargir dans un bref délai toute cette philosophie nouvelle de la police en matière de sécurité dans la République démocratique du Congo.
Merci.
Au-delà de ça, il y aura des méfiances de la population envers cette, mm-hmm. ces corps et il n'y aura que trahison. Voilà ce que j'ai dit.
Voilà, merci beaucoup Ernest. C'est important, hein, cette expérience de la police de proximité. Il faut une confiance entre la population et la police. Sinon, la méfiance risque de perdurer. Vous avez suivi Dr Richard Hadi, il a peur quand quelqu'un courage le policier directement, il voit le visage de quelqu'un qui est fâché, qui lui fait peur. Alors, il faut qu'on casse la méfiance entre la police et la population. Merci beaucoup Ernest. On va terminer avec vous, Mavé. Vous êtes à Kananga au nom des auditeurs. On vous écoute, Mavé. Marou, on vous écoute, oui.
D'accord, merci. Je voudrais intervenir dans cette émission concernant le sujet du jour. Je crois qu'il n'y a pas deux semaines que nous avons connu un problème d'une mère qui a été par hasard tuée à des forces violentes de la police ici à Kananga. Donc, nous remarquons qu'ici, la police n'est pas, pas prête à servir, soit à traiter les services vis-à-vis de la population. Donc, nous considérons la police aujourd'hui comme si elle est notre ennemi, des choses comme ça. Je voudrais demander, est-ce que l'invité est là, je ne sais pas ce qu'est la police, est une structure que l'on peut recruter toute forme de barbarie ou comment? Ils n'ont pas de mécanismes, d'autres règles qui peuvent adopter pour recruter des personnes compétentes, encadrer, lobbyer le personnel.
Merci.
La population, voilà, c'est ce que moi je voudrais vous demander.
Merci beaucoup, Mavé. Merci beaucoup, Mavé. Vous demandez quelle procédure faudrait-il pour avoir des hommes recrutés de confiance qui peuvent renforcer cette confiance entre la population et la police. Vous avez évoqué les cas à Kananga. Alors, vous souhaitez qu'il y ait vraiment cette copénétration, pour utiliser les termes de Ernest et de Matadi, entre la police et la population. On termine avec vous. En 30 secondes, Émile, vous êtes à Lubumbashi. 30 secondes, juste votre préoccupation, votre point de vue.
Ouais, bonjour, M. Thiro. Bonjour, mon colonel. J'ai juste une petite question, étant donné qu'on n'a pas assez de temps.
Oui.
Monsieur le colonel, à quel état d'âme que les policiers doivent aller pour exécuter un mandat d'amener? Faudra-t-il aller dans un état d'ivresse ou bien faudra-t-il avant tout se droguer pour aller arrêter quelqu'un? Merci.
Voilà, merci. Merci, Émile. Vous posez la question à notre invité de savoir quand le policier se rend sur terrain pour exécuter, par exemple, un mandat d'amener, faudrait-il qu'il puisse d'abord être sous l'effet des substances alcooliques pour aller exécuter cette mission? Dans quel état doit-il être? Nous tournons vers vous, colonel Célestin Kanyama, parce qu'on va clôturer cette émission pour la conclure avec vous. On a suivi les uns et les autres. Nous avons fait les points, les préoccupations des auditeurs, mais aussi beaucoup de propositions. Alors, pour terminer, comment renforcer la confiance entre la population et la police pour faciliter à la police de faire son travail, mais aussi la question de notre ami de Lubumbashi sur l'état d'esprit du policier qui doit descendre sur terrain pour exécuter une mission?
Oui, je suis très fier de cette question-là. Je crois qu'un policier qui exécute des actes de procédure, ces policiers-là doivent être sereins. Ils doivent être des gens sans, ils ne doivent pas être en état d'ivresse. Déjà en état ivre, c'est déjà une violation des consignes pour nous et c'est pas une bonne chose. Comment tu peux aller et s'adresser à un citoyen, un compatriote respectable, si toi-même tu es déjà dans un état, tu es déjà indisposé. Au départ, tu es indisposé. Et la grande préoccupation, il faudrait que la population comprenne une chose. La police n'est pas bouche-trou. Ce n'est pas une poubelle où on doit venir ramasser de n'importe quoi. Vous prenez tout ce qui est mauvais, vous venez jeter à la police. Non. Il faudrait sélectionner d'abord au niveau des familles. La famille, c'est notre cellule de base. Vous voulez envoyer quelqu'un à la police, choisissez un meilleur de vous. Vous l'envoyez pour dire que voilà, nous avons notre aîné ici, notre frère qui est docteur, notre frère qui est avocat, qui est juriste, qui est enseignant, qui l'aille prester au sein de la police. Et c'est ça, il faut commencer quelque part. Il ne faut pas sur toute la ligne condamner la police. Mais la police ne vient pas du ciel. La police, c'est une émanation du peuple.
C'est la population, oui.
C'est une émanation du peuple. Il faudrait que les gens comprennent que la police vient de la population. Et que cette population doit mettre à la disposition de la police
tout ce qu'ils peuvent avoir de bien. Les gens capables. Il ne faut pas nous prendre un monsieur qui a perdu l'éducation familiale et que vous venez jeter à la police pour que demain vous condamnez cette même police. Non. Non. C'est-à-dire qu'il faudrait s'en approprier. Vous prenez la police et devient la vôtre et vous choisirez parmi vos enfants les meilleurs que vous envoyerez à la police. Et en plus de ça, nous demandons à la population de faire confiance à votre police. Il y a un compatriote qui a posé la question. La police n'est pas la continuité de la gendarmerie ou de la garde civile ou des forces armées d'Aïvance, comme tu l'as dit. Non. C'est une force à part. C'est un service public à part. Ce n'est pas la continuité. Ce n'est pas ça. Il faudrait tout ça. Il faut lire la loi. Il faut lire la loi. Vous ne verrez nulle part où on vous dira que la police est la continuité. Non. Non. Je crois que nous avons parmi les membres de la police, il y a des éléments que nous respectons beaucoup. Et il y a aussi des brebis galaises qu'on ne peut pas ne pas parler.
Merci.
Non, on parle aussi de ça.
Voilà.
Mais il faudrait que vous compreniez que la police
merci
est
beaucoup.
La vôtre. Et vous avez des informations, vous avez des renseignements, mettez à la disposition de la police. Si vous voyez un élément qui se comporte très mal, il faut le dénoncer.
Merci.
La dénonciation.
Mmh.
Et la loi est claire sur ce point-là. Quand il y a quelque chose qui se passe et que vous ne dénoncez pas, c'est une mauvaise chose.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, colonel Célestin Kanyama, d'avoir accepté de débattre de ces sujets avec les auditeurs des Radio Capi. Je rappelle que vous êtes le commissaire de la police nationale congolaise dans le district de la Lukunga, ici à Kinshasa. Nous disons aussi également merci aux auditeurs qui ont été nombreux à contribuer dans cette émission consacrée à la police nationale congolaise. On se retrouve demain, vendredi, pour un autre numéro de paroles aux auditeurs. À deux semaines de la tenue du 14e sommet de la francophonie à RDC, nous allons nous intéresser au secteur touristique à travers le pays, les différents sites touristiques qui sont dans votre milieu, quel est leur état de lieu. On en parle avec vous demain. Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à J.R. Lungembo, Titimputu, Diedone Nyangasa pour la production de cette émission supervisée par Ben Kabamba. Vous allez la retrouver en rediffusion à 20h heure de Kinshasa. D'ici là, le programme continue sur Radio Capi et surtout, portez-vous bien chez vous. Au revoir.